La découverte du docteur Schwarzbaum, une aventure de John Strobbins par José Moselli. Monsieur Schwarzbaum, professeur de langues orientales à l'université de Iéna, n'avait encore pas beaucoup fait parler de lui lorsque le décès de son oncle, le célèbre Karl Schwarzbaum de Chicago, surnommé le roi de la saucisse en conserve, le rendit du coup célèbre. C'est que Karl Schwarzbaum, qui avait débuté comme garçon charcutier 40 ans auparavant, laissait une fortune évaluée à 40 millions de dollars, pas moins, et que le professeur Schwarzbaum était son unique héritier. Au journaliste accouru l'interviewer, le professeur afficha un absolu mépris des richesses. « Mes projets, dit-il, ils sont simples, messieurs. Je veux consacrer à la science et à la patrie allemande l'héritage qui vient de mes choix. » Depuis longtemps, je rêvais de résumer en paix mes études et d'écrire un journal sur le sanskrit et l'écriture runique, qui, j'ose le dire, doit révolutionner le monde, car je crois avoir découvert le mystère des anciennes écritures de l'Inde. Mon ouvrage, qui révolutionnera les sciences orientales, s'ajoutera à la gloire de l'Allemagne. Je n'en demande pas plus. La presse entière applaudit à ces patriotiques paroles. Le Kaiser lui-même ne dédaigna pas d'accorder une entrevue au nouveau millionnaire et lui conféra la deuxième classe de l'ordre de l'Aigle Rouge. M. Schwarzbaum, devenu un héros, partit pour l'Amérique afin de réaliser l'héritage de l'oncle. Il vendit les usines, réalisa la fortune de feu Karl et ne se consacra plus qu'à la science, du moins il l'affirma. Sa vaste bibliothèque, située au 22e étage de son palais, excitait l'admiration des Chicagoans. Elle occupait tout le toit de la vaste bâtisse et était construite en lames de verre épaisses de 15 cm et reliées entre elles par des armatures d'acier au nickel. Un jeu de rideaux jaunes d'or permettait aux savants de s'isoler et l'abritait des rayons du soleil. À travers les épaisses vitres, les citoyens de Chicago pouvaient voir briller de puissantes lampes à arc, dont la lueur éclatante se projetait chaque nuit dans le ciel noir jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Cependant, 6 ans passèrent sans que le richissime professeur Schwarzbaum publiât quoi que ce soit. Mais sa réputation ne faiblissait pas. Lors de la catastrophe du 77e Zeppelin, Schwarzbaum envoya 1 million de marks pour servir à la construction d'un 78e dirigeable. Et cela lui valut la visite de l'attaché naval allemand aux États-Unis, lequel vint, de la part de l'empereur, lui remettre la première classe de l'Aigle Rouge. Le professeur Schwarzbaum fit encore parler de lui quelques jours plus tard, en ajoutant à la splendide collection de pierres précieuses héritées de son oncle et qu'il avait conservées, les 8 fameux saphirs noirs de l'ordre John Leslie de Carbagan, lequel venait de décéder subitement à New York. Ces saphirs, uniques au monde et que le noble lord portait habituellement en bracelet, étaient célèbres. Mentionné par le voyageur vénitien Marco Polo dans la relation de son voyage en Chine. Ils appartenaient alors à un émir du Turkestan qui devait, 1 an plus tard, être signé entre 2 planches par ordre du camp de Tartarie. Les saphirs noirs passèrent ensuite aux mains de Timurnek, le grand mogol, lequel mourut assassiné. Ils échurent alors à un de ses ministres qui fut empoisonné. Du ministre, on voit les saphirs noirs passer de main en main, apportant le malheur, la ruine et la honte. Le pacha Chien Koutsi les possède, il est décapité par ordre du sultan. L'hetman des Cosaques de l'Ukraine s'en empare, ses soldats se révoltent et le font périr sous le knout. Puis, c'est le chinois Almoroli, vice-roi du Hunan, mort fou, le négociant sibérien Vassiliev, poignardé par les forçats de Knorx, l'arménien Andjian qui fit naufrage, meurt noyé avec les saphirs sur lui, lesquels sont retrouvés sur son cadavre et vendus au général français Gariel, fusillé sur la Terreur Blanche. Le fils de Gariel meurt dans une catastrophe de chemin de fer, il lègue les fatales saphirs à une de ses cousines, elle se marie au comte Mario Camerini, les 2 époux périssent dans un incendie le soir de leurs noces. Les saphirs, échappés au feu, sont vendus au sultan de Zanzibar, mort empoisonné. Un hindou les vole, il est pris et pendu. Les héritiers du sultan vendent les saphirs à un riche bourg. Celui-ci est tué à la première bataille de la guerre anglo-transbalienne. Un cafre trouve les pierres sur le cadavre, mais commet l'imprudence de les montrer au chef de sa tribu qui le fait brûler vif et s'empare des saphirs. Et Sir John Leslie de Carbagan, qui commandait alors un régiment anglais avant de la faire. Il cerne la tribu Cafre, l'anéantit et s'empare des saphirs après avoir tué le chef nègre. Depuis, malgré les offres les plus tentantes, il avait toujours refusé de les vendre. À lui non plus, les gemmes ne devaient pas porter bonheur puisqu'il mourut à 40 ans d'une indigestion de homard. Lorsqu'on sut à Chicago que le riche professeur Schwarzbaum venait d'acquérir les fameuses pierres, les journalistes se précipitèrent chez lui afin de savoir le mobile qu'il avait fait acheter les mirifiques saphirs. « Gentlemen, déclara Schwarzbaum gravement, je n'ai aucun mérite à cela. Nous autres Allemands, nous sommes au-dessus des vaines superstitions. Des racontars affirment que ces saphirs portent malheur. Rien ne le prouve. En admettant que ce que l'on dit soit vrai, cela prouverait rien encore, sinon une suite de coïncidences malheureuses. Mais je ne le crois pas. Ces saphirs valent plus d'un million de dollars la pièce. Ils sont uniques par leur couleur, leur grosseur et leur poids. Je les ai achetés, d'abord parce que c'était une bonne affaire, et ensuite pour les offrir, après ma mort, au musée de Iéna. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Les journalistes, à la suite du professeur, montèrent dans la bibliothèque. Là, sur un guéridon d'argent, les 8 saphirs, gros chacun comme une forte noisette, étaient posés sur un coussin de soie blanche. Leurs 1000 facettes, merveilleusement taillées, jetaient des feux d'un bleu noir, admirable à voir. « Ce sont des pierres merveilleuses », prononça le rédacteur du Chicago Sun, se faisant l'interprète de tous. « The finest of the world », les plus belles du monde. Schwarzbaum, sa large face rasée, ornée de lunettes d'or, épanouie par l'orgueil et le contentement, murmura « Ils sont uniques, n'est-ce pas ? Uniques ! Ah, l'on comprend que tant d'hommes aient voulu les posséder, malgré leur fâcheuse réputation. Mais moi, professeur Schwarzbaum, je montrerai qu'un Allemand ne craint rien. » Ces déclarations, reproduites par toute la presse avec la photographie des mirifiques saphirs à l'appui, causèrent une sensation énorme. La renommée du professeur s'en accrut. De nombreuses notabilités, notamment l'ambassadeur d'Allemagne à Washington, tinrent à venir admirer les incomparables joyaux. Schwarzbaum, 8 jours durant, laissa envahir son laboratoire par les curieux, trié sur le volet naturellement et surveillé par une douzaine de détectives éprouvés. Puis, annonça son intention de ne plus recevoir de visite en alléguant qu'il mettait au point une invention importante, invention, affirma-t-il, qui devait révolutionner le monde. Ces déclarations, comme le pense, surexcitèrent la curiosité publique. Que voulait dire le savant? Y avait-il un lien entre l'invention dont il annonçait la réalisation et l'achat des 8 saphirs fatals de Lord Leslie? Il fut impossible de le savoir, car à partir de ce jour, Schwarzbaum ne reçut plus personne, consigne à sa porte et ne sortit plus de son palais du lac Erie. Ses domestiques, de robustes teutons qu'il avait fait venir de Poméranie, furent en vain interrogés sur l'invention que préparait leur maître. Ils restèrent muets, et les Chicagoans, déçus, purent constater que chaque nuit, la bibliothèque aérienne du savant allemand restait illuminée jusqu'à l'aube. Ce que voyant, un journaliste audacieux se fit par une belle nuit enlevé par un aéroplane et vola au-dessus de la bibliothèque de Herr Schwarzbaum. Hélas, il ne vit rien de bien sensationnel ni de bien mystérieux. Au milieu de la vaste bibliothèque, le professeur Schwarzbaum, revêtu d'une longue blouse blanche, était debout devant ses mortiers de pierre, remplis de pâtes de différentes couleurs, et qu'il mélangeait avec précaution. C'était tout. Cependant, le journaliste ne voulut pas perdre le bénéfice de son exploit, et le lendemain matin, il publia un article intitulé « Le professeur Schwarzbaum travaille », dans lequel il racontait qu'il avait vu en aéroplane le savant allemand travailler à la confection d'une pâte pectorale sans doute, et qui devait guérir tous les maux de poitrine connus, depuis le simple rhume jusqu'à la tuberculose aiguë. « On comprendra, » termina le journaliste, « que nous n'en disions pas plus long, tenant à laisser à l'éminent savant le plaisir d'annoncer lui-même au public son admirable découverte qui, comme il le disait récemment, doit en effet révolutionner le monde. » Cet article eut un grand succès, mais qui, malheureusement pour le journaliste, ne dura pas longtemps, car le jour suivant, tous les journaux, à l'exception de celui dans lequel avait paru le récit qui précède, publièrent l'extraordinaire lettre qu'on va lire et qui était signée du professeur Schwarzbaum. « Monsieur le rédacteur en chef, l'Amérique est le pays de toutes les libertés. Nul plus que moi ne s'en félicite. La liberté est le premier des biens. Vous ne serez donc pas étonné que je revendique pour moi la liberté de vivre à ma guise et de rester maître de fixer le moment où je ferai connaître ma découverte. Grâce à l'indiscrétion saugrenue d'un individu qui est venu m'espionner en aéroplane, oui, je dis m'espionner, tout le monde sait que je malaxe des pattes. L'impudent reporter en question a même eu le toupet d'affirmer, sous sa responsabilité, que je préparais une patte pectorale. Moi, Heinrich Schwarzbaum, docteur en sciences orientales de l'université de Jena. Ce faisant, ce personnage a voulu sans doute me ridiculiser. Mais on ne ridiculise pas un Allemand. Aussi bien, l'admirable découverte que je préparais est au point. Je n'ai pas de raison de la cacher. J'ai tout simplement inventé une patte qui n'a rien de pectoral, loin de là. Cette pâte, dont la composition doit rester secrète, se place dans une entaille faite dans les projectiles, projectiles de mon invention, mais semblable à ceux employés ordinairement d'aspect, tout au moins, balles de revolver, de fusil, obus, boulets, etc. La pointe du projectile vient-elle à toucher un obstacle? La chaleur dégagée par le choc volatilise ma pâte, drôle de pâte pectorale, n'est-ce pas? Et en s'évaporant, la dite composition dégage instantanément un énorme volume de gaz asphyxiant qui foudroie tous les êtres vivants dans un rayon de 10 mètres et ce pendant 10 minutes car mon gaz, beaucoup plus lourd que l'air, ne s'évapore que très lentement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette admirable invention, qui représente 20 ans de travail, est destinée à ma patrie, à qui elle doit assurer une suprématie écrasante. Voilà vos lecteurs renseignés, eh bien. J'espère que l'absurde légende de la pâte pectorale aura vécu. J'ajoute que je compte repartir pour l'Allemagne d'ici quelques jours. Je profite de cette lettre pour remercier la noble nation des États-Unis et la belle ville de Chicago de l'hospitalité que j'y ai reçue et qui m'a permis de mener à bien mes recherches. Après l'Allemagne, les États-Unis, je le déclare, sont la première nation du monde. Professeur Schwarzbaum, Heinrich, docteur de la faculté de Jena. La publication de cette lettre, si pleine de prétentions, causa à Chicago et dans toute l'Amérique une stupeur énorme. L'invention du savant allemand, si elle ne devait pas faire le bonheur de l'humanité, au contraire, n'en avait pas moins une importance capitale. Un journaliste new-yorkais rappela l'achat des saphirs noirs par Schwarzbaum et plaisamment déclara que les fatales pierres, cette fois, n'avaient pas porté malheur à leur possesseur seulement, mais bien à l'humanité entière, que la découverte du professeur était destinée à asphyxier. En tout cas, observait le journaliste, l'affaire ne manquait pas de saveur. Après avoir pâli 20 ans sur ses bouquins et annoncé au monde un ouvrage sur les anciennes langues de l'Inde, voilà que, par une déclaration inattendue, ce savant annonçait au monde la découverte d'un obus asphyxiant. Les savants sont gens bizarres, vraiment. D'autres journaux, d'ailleurs, émirent des doutes sur l'invention de M. Schwarzbaum. La plupart, cependant, furent unanimes à désapprouver l'emploi d'un si effroyable engin de guerre et déclarèrent qu'ils espéraient bien que la conférence de La Haye interdirait les projectiles du savant allemand. Il faut croire que l'invention du docteur Schwarzbaum n'excitait pas chez tous l'horreur montrée par certains journaux américains, car le jour même de la publication de la lettre du savant allemand, un gentleman à la face rasée, correctement vêtu de noir, et la boutonnière ornée du ruban d'une décoration, ce qui indiquait sa nationalité étrangère, il n'y a pas de décoration aux États-Unis, se présenta à la porte du monumental palais du Richteton. Sa carte, qu'il passa au gardien, portait ces mots « Alfred S. Crewe, de la part de M. Müller von Brisgau. » « Remettez ceci de suite au docteur, » ordonna l'inconnu, en joignant cet ordre un banknote de $5, qu'il glissa sans affectation dans la large main tendue du domestique. Quelques instants plus tard, l'ascenseur le déposait au 22e étage. Sous la conduite d'un valet accouru, il traversa une large antichambre et arriva devant un panneau d'acier assez semblable à une porte de coffre-fort. Le domestique pressa un bouton encastré dans le mur. Une sonnerie électrique retentit et presque aussitôt, la porte s'ouvrit seule. L'inconnu put remarquer qu'elle était épaisse de plus de 15 centimètres. Très froidement pourtant, il franchit le seuil et se trouva dans la bibliothèque du savant. La porte, cependant, s'était refermée derrière lui, sans bruit. M. Schwarzbaum, vêtu d'une robe de chambre de laine blanche, retenue par des passementeries d'or, marcha à la rencontre de son hôte. « Monsieur Crewe, dit-il, venait de la part de mon très charmé Müller von Brisgau. Que devient-il? Est-il toujours à Tampico? L'inconnu s'inclina. Monsieur le professeur, avant d'aller plus avant, je dois vous avouer que mon nom n'est pas Crow. Je suis le lieutenant de vaisseau Wilhelm von Kohler, attaché naval à l'ambassade allemande de Washington. J'ai pris le nom de Crow pour parvenir jusqu'à vous sans provoquer les indiscrétions. Ah! Ce « ah » c'est tout ce que put dire Schwarzbaum tant il était étonné. Le lieutenant von Kohler sourit. Vous vous doutez, n'est-ce pas, monsieur le professeur, du but de ma visite? Comme je me trouvais à Chicago, son Excellence l'ambassadeur m'a envoyé tout à l'heure un télégramme, m'ordonnant de vous voir au sujet de votre communication aux journaux. Son Excellence, naturellement, est persuadé que vous allez garder pour notre chère patrie le secret de votre admirable invention, sur laquelle elle m'a ordonné de faire d'urgence un rapport à Sa Majesté. Son Excellence ne m'a pas caché qu'elle demanderait pour vous la croix de la couronne de Prusse pour commencer, et qu'il se pourrait bien qu'en raison des éminents services rendus par vous à l'Allemagne, l'empereur vous anoblit. En vérité, je suis confus, balbutia Schwarzbaum, que ce petit discours avait rempli de joie et d'orgueil. Il était devenu rouge comme une tomate. Et ce ne serait que justice, monsieur le professeur, appuya von Kohler. Tout le monde en Allemagne apprécie comme il convient votre noble générosité et votre labeur qui honore la science allemande. Schwarzbaum soupira. « Oui, oui, » murmura-t-il, « j'ai fait mon possible. Le mieux que j'ai pu, le mieux. J'aurais voulu faire plus, oui. » Il se redressa et conclut. « Venez, lieutenant, vous allez voir mon œuvre. » Ce disant, il marcha vers un coffre-fort, et avec l'adresse que donne une longue habitude, il en actionna sans effort le mécanisme compliqué. Ayant ouvert la porte d'acier, il prit sur des rayons un revolver d'ordonnance de l'armée allemande et le mit sous le nez de son interlocuteur. « Vous voyez ce revolver ? » dit-il. « Prenez-le. Il est tout pareil à ceux en service chez nous, n'est-ce pas ?»« Exactement, » avoua von Kohler. « Vous permettez ?» Et l'officier allait se placer près de la paroi vitrée afin de mieux examiner le mécanisme de l'arme que venait de lui confier Schwarzbaum. « Vous allez le voir fonctionner, » fit le professeur. « Je n'ai jusqu'ici fabriqué que les 6 balles qu'il contient. Nous en essaierons une ?»« Merveilleux, en effet, » murmura le lieutenant de vaisseau. Pendant quelques instants encore, il examina le revolver, puis le tendit au savant. « Non, » fit celui-ci, « gardez-le, vous tirerez vous-même. » Le lieutenant von Kohler lança à Schwarzbaum un regard interrogateur. « Venez, » murmura ce dernier, souriant. À la suite du savant, von Kohler traversa l'immense bibliothèque et arriva devant une porte encastrée dans la muraille. Il l'ouvrit. Elle donnait sur un cabinet noir, servant vraisemblablement à la photographie. Une tablette de tôle supportant quelques flacons la meublait seule. Au plafond, une ampoule électrique en verre rouge répandait une lueur sanglante. Les parois de cette cabine, larges de 2 mètres, longues de 3, étaient faites de tôle d'acier, dans laquelle un hublot de verre rouge, cercle de cuivre et donnant dans la bibliothèque, était encastré. Sur le sol, en acier également, une cage d'osier était posée. Elle contenait un chien de forte taille. « Bel animal !» murmura von Kohler. « Décidément, monsieur le professeur, tout est beau chez vous. Ce cabinet est merveilleux et blindé comme une forteresse, ma foi. Je suppose qu'il vous sert à enfermer les fameux saphirs de Lord Carbagan, car enfin, ce n'est pas pour un chien que... »« Non, ce n'est pas pour le chien !» expliqua Schwarzbaum. Ce cabinet me sert à développer les précieuses photographies que j'ai apportées de Perse l'an dernier. Ainsi, je n'ai aucune crainte de voir mes travaux interrompus par le feu ou le vol. Quant aux saphirs, ils sont dans le coffre que vous voyez là-bas. Pour l'ouvrir, il faudrait employer la dynamite ou connaître le chiffre qui permet d'actionner la serrure. Mais revenons à mon invention. Poliment, le lieutenant von Kohler s'inclina. Vous allez tirer une balle dans ce cabinet, expliqua Schwarzbaum, mais pas sur le chien, ne le blessez pas, surtout. Il faut que le gaz seul le fasse mourir. Nous refermerons la porte, nous fumerons un cigare, et vous constaterez ce qu'il est advenu du chien. Or, dans une guerre contre la France, ce sera vraiment drôle de voir tous les pantalons rouges, à la première décharge de nos vaillants soldats, tomber grouillés comme des écrevisses dans le courbouillon. À cette idée, le savant s'esclaffa. Von Kohler fit entendre un rire discret. « Allez-y, lieutenant, » proposa Schwartzbaum, « et ne blessez pas le chien, surtout. Il importe qu'il meure par asphyxie, et pas autrement. Et reculez-vous aussitôt que je ferme. »«
N'ayez crainte, » fit l'officier. Une seconde, il hésita, puis il entra d'un pas dans le cabinet et fit feu. La balle fit résonner la paroi d'acier. Von Koller avait immédiatement bondi en arrière, cependant que Schwartzbaum refermait la porte et reprenait le revolver que lui tendait l'officier. « Un cigare, lieutenant ?» proposa le savant.
« Non, merci. Je ne fume que la cigarette, monsieur le professeur. Si vous le permettez, je vais regarder vos livres. Vous avez là de bien magnifiques reliures. »«
Pour plus de 2 millions de dollars !»
fit Schwartzbaum orgueilleusement. « Tenez, regardez ces livres recouverts de peau jaune.
C'est l'histoire de la civilisation chinoise par Skanderberg. Ils sont entièrement reliés de peau de chinois. Cela m'a coûté cher, mais
je trouve cela plus régulier. Chaque chose a sa place. »
Et cela ? Demanda l'officier en désignant une rangée de volumes reliés en rouge et rangés le long de l'imposant coffre-fort occupant le milieu de la salle.
Cela ? C'est l'histoire d'Angleterre, de Macaulay, reliée en peau de requin.
Les Anglais sont tous des requins.
Curieux, en vérité, murmura Von Koller. N'est-ce pas ? Fit le savant flatté. Il releva la tête et dit :
Je crois que le moment est venu de voir ce que devient le chien.
Allons.
Une seconde. « Je vais d'abord actionner les ventilateurs, afin que les gaz ne nous empoisonnent pas lorsque nous allons ouvrir la porte. Venez !»
Schwartzbaum ouvrit un placard et en retira 2 appareils bizarres, consistant en un masque de caoutchouc muni d'un tuyau aboutissant à un réservoir en aluminium.
« Mettez ce masque, » conseilla le savant, « ainsi vous n'aurez rien à craindre des gaz. »
Von Koller obéit. Les 2 hommes, protégés par leur masque respiratoire, marchèrent vers la porte du cabinet photographique. Schwartzbaum l'ouvrit. Sur le parquet de tôle, le chien gisait, les yeux vitreux, la gueule ouverte, les babines violettes et souillées de barbe, le poil hérissé. Incontestablement, il était mort.
« Eh bien, qu'en dites-vous ? » questionna le savant, triomphant. « Cela a duré 6 minutes, exactement. »«
Merveilleux, » murmura l'officier. « Merveilleux. Je vais faire mon rapport en conséquence à son Excellence l'ambassadeur.
Avec cela, nous sommes sûrs de la victoire, hein ? » ?»«
Oui ?» À condition naturellement que vos gaz produisent le même effet sur les hommes que sur les chiens.
Voulez-vous essayer ? Plaisanta Schwartzbaum.
Merci, fit Koller, ironique. Et merci surtout pour votre si aimable démonstration. La preuve est faite, irréfutable, de l'excellence de votre invention. Quand même, on a bien raison de dire que la science est multiple et inattendue. C'est le moine Schwartz qui inventa la poudre et c'est le professeur Schwartzbaum qui découvre le projectile asphyxiant.
Étonnant.
« Me serait-il permis de vous demander, monsieur le professeur, comment vous est venue l'idée de cette admirable découverte ?»«
Oh, il y a longtemps que je m'occupais des gaz asphyxiants, » expliqua Schwartzbaum un peu embarrassé.
« Un hasard fortuit m'a permis de mettre au point mon invention, et voilà. »
Von Koller, un homme discret, n'insista pas, bien que la réponse du savant n'explique à rien. Quelques instants plus tard, l'officier se retirait, non sans avoir réitéré ses remerciements à son hôte et lui avoir fait espérer les distinctions les plus flatteuses. Le professeur Schwartzbaum, resté seul, se sourit à lui-même.
« Baron, c'est sûr. Le Kaiser me créera au moins baron. »«
Baron von Schwartzbaum, cela sonne admirablement.
Ah ah, ils en crèvent de rage à l'université de Iéna, » murmura-t-il.
Il marcha vers le coffre-fort encastré au milieu de la salle et l'ouvrit. D'un écrin de maroquin blanc qu'il y prit, il retira les 8 merveilleux saphirs noirs achetés aux héritiers de Lord Leslie Carvagan. Et dire qu'il y a des imbéciles pour affirmer que ces pierres portent malheur. Ils n'y comprennent rien.
Rien.
Oh, oh. Oui, les saphirs portent malheur. Et un malheur plus grand qu'on ne le croit, mais pas à moi.
Ayant proféré ces mystérieuses paroles, le savant replaça les précieuses gemmes dans leur écrin, et celui-ci dans le coffre-fort qu'il referma soigneusement.
Pendant tout le restant de la journée, Schwartzbaum, étendu dans sa bibliothèque, rêva de gloire et de noblesse. La fortune, il l'avait. Sur un guéridon, le revolver chargé des balles asphyxiantes brillait aux rayons du soleil passant à travers les épaisses vitres. Schwartzbaum le considéra avec amour. « Je serai baron, » murmura-t-il.
« Baron.
Qui sait ? S'il se produit une guerre entre l'Empire et la France, « guerre qui ne peut manquer d'être victorieuse pour nous, grâce à mon admirable invention.
l'empereur ne pourra pas faire moins que de me créer prince. Prince. Après tout, je l'aurais bien gagné, après ce que j'ai risqué. » Le savant frissonna. Le soir venait. Épuisé par les émotions de la journée, Schwarzbaum, après un léger dîner, se coucha. Il dormit mal. Sa chambre, meublée avec un luxe inouï, était située sous la bibliothèque. Un peu après minuit, le savant, épuisé, commençait à sommeiller lorsqu'une sonnerie électrique crépita. Réveillé en sursaut, Schwarzbaum se dressa, sauta bas de son lit et enfila une robe de chambre. La sonnerie qu'il venait d'entendre indiquait qu'un voleur opérait au-dessus. Il fit rendre cette justice à Schwarzbaum qu'il était brave. Il saisit le revolver à balle asphyxiante qu'il avait machinalement porté dans sa chambre, et, sa face ronde grimaçant une expression sinistre, il murmura « Voilà un cambrioleur qui est le bienvenu, vraiment. Félicitez sur lui si mes projectiles sont aussi bons, comme je le crois, pour les hommes que pour les chiens. » Les pieds chaussés dans des sandales feutrées, Schwarzbaum, dédaignant de se servir de l'ascenseur, qui aurait pu donner l'éveil aux malfaiteurs, grimpa sans faire aucun bruit le large escalier de marbre. La porte de la bibliothèque était entrouverte. Le savant, doucement, la poussa. Et grâce à la clarté de la lune qui éclairait la vaste salle comme en plein jour, aperçut un gentleman, vêtu d'un habit de soirée, et qui, après avoir, le diable savait comment, ouvert le coffre-fort, en retirait, à ce moment précis, l'écrin de maroquin contenant les 8 saphirs noirs. « Ah, bandit !» hurla Schwarzbaum, perdant son sang-froid devant ce spectacle déplorable. L'homme, d'un geste rapide, glissa les pierres précieuses dans sa poche. Il se retourna et dit « Tiens, monsieur Schwarzbaum, von Kohler !» rugit le savant en reconnaissant son visiteur de l'après-midi. « Non, pas von Kohler, cher monsieur Schwarzbaum, mais John Strobins. »« John Strobins, ah, eh bien, haut les mains, ou je tire !» hurla Schwarzbaum en braquant son revolver vers le détective cambrioleur. John Strobins, car c'était lui, ne s'émut pas. Une seconde, il hésita, puis, pris d'une idée subite, il obéit et leva les bras. « Ah, tu es John Strobins !» gronda l'Allemand. « Eh bien, tu as trouvé ton maître !»« Hola ! Peter, Wilhelm, Karl, Friedrich, ici, vite !» hurla-t-il en frappant du pied. Presque instantanément, 4 colosses blonds, des gens de Poméranie, apparurent. « Emparez-vous de ce voleur, et n'ayez pas peur de cogner. Allez-y dur, il y a 100 marques pour chacun. » Les 4 Prussiens, les poings levés, se précipitèrent vers John Strobins. Le détective cambrioleur eut un mouvement de colère, puis, brusquement, il bondit en arrière, et avant que les valets aient pu le rejoindre, atteignit la porte du cabinet photographique dans lequel le chien avait été tué quelques heures auparavant, l'ouvrit, passa, et la referma vivement sur lui. Schwarzbaum éclata de rire. « Arrêtez, vous autres » cria-t-il au Prussien, qui allait se précipiter sur la porte. « Arrêtez, allez-vous-en » Les valets, interloqués, regardèrent leur maître. « Allez-vous-en » répéta Schwarzbaum. Il fut obéi. Une fois seul, il ricana. « Tu as eu une bonne idée, John Strobins, de t'enfermer là. Je vais te faire comme au chien. Ainsi, ma découverte merveilleuse montrera son efficacité. » Comme John Strobins, après s'être réfugié dans le cabinet de photographie, en avait tiré la porte sur lui, il ne put entendre la menace sinistre du professeur Schwarzbaum. Ce dernier s'approcha et, d'un geste rapide, donna un tour de clé à la serrure. John Strobins, alors, se rendit sans doute compte de l'imprudence qu'il venait de commettre, car l'Allemand l'entendit qu'il martelait la porte à coups de pied et de poing, mais naturellement sans même l'ébranler. « Imbécile !» murmura Schwarzbaum. Et dire que c'est cet idiot qui depuis des années bafoue la police américaine. Il sourit, fier de lui. Nous autres, Allemands, nous sommes le premier peuple du monde, c'est incontestable, conclut-il. Cependant, John Strobins, comprenant l'inutilité de ses efforts, avait cessé ses tentatives contre la porte. Sa face, collée à la vitre rouge du hublot, reflétait une expression d'angoisse atroce. Schwarzbaum, son revolver au poing, s'approcha de la porte. Il poussa un bouton de cuivre incrusté dans la paroi et instantanément, un guichet carré de 5 cm de côté s'ouvrit dans la cloison séparant le cabinet de photographie de la bibliothèque. « Écoute-moi bien, John Strobins !» cria l'Allemand en approchant sa bouche de l'ouverture. « J'aurais pu te livrer à la police, mais je ne le ferai pas. Je vais expérimenter sur toi l'effet de mon projectile explosible. tu pourras ainsi constater toi-même que mon invention produit les mêmes effets sur les hommes que sur les chiens. Puisque hier, lorsque tu jouais le rôle du lieutenant von Koller, tu semblais en douter. Tu vas donc mourir comme un chien. C'est le cas où jamais de le dire. Ha ha! Console-toi! Tu es un martyr de la science. Ha ha ha! Schwartzbaum dut s'arrêter tant il riait. Il se calma enfin. John Strobbins n'avait pas dit un mot.
Entends-tu, John Strobbins?
Reprit l'Allemand, devenu inquiet.
Pourvu, murmura-t-il, que cet imbécile ne soit pas déjà mort de peur.
Ah, seuls les Allemands ont du courage.
Oh, John Strobbins! Laissez-moi la vie et je vous rends les saphirs,
fit la voix du détective cambrioleur.
Ah, quel idiot! Mais imbécile, une fois que tu seras mort, je n'aurai qu'à le reprendre. Tu n'as rien d'autre à me dire?
Non. Alors tout va bien. Si tu crois en Dieu, fais ta prière.
Je te donne 5 minutes.
Merci. Je vais prier Dieu qu'il ne te laisse pas aller au ciel où ta place est marquée.
Comment?
Fit Schwartzbaum, croyant que son prisonnier déjà était fou. Je dis que, comme le royaume des cieux, d'après l'évangile, appartient aux pauvres d'esprit, ta place y est retenue. Mais j'espère bien, malgré cela, que tu iras chez Satan, ton patron.
Et un chien, tu railles,
glapit l'Allemand en haussant son revolver vers l'ouverture. Mais il arrêta ce mouvement et tira sa montre. Les aiguilles marquaient 2h37. Il la tint dans sa main gauche et tendit sa main droite armée du revolver à la hauteur de l'orifice. John Strobbins, cependant, regardait par le hublot de verre rouge. Schwartzbaum fit feu. La détonation retentit longuement dans la vaste pièce. Tout aussitôt, l'Allemand, après avoir tiré à lui son revolver, dont il avait introduit le canon dans l'ouverture, avait refermé cette dernière. Tenant toujours sa montre à la main, il alla se poster devant le hublot. À travers la vitre rouge, les deux ennemis s'observèrent. Pendant la première minute, le visage de John Strobbins resta impassible ou presque. À peine si les mâchoires légèrement contractées, les narines qui palpitaient, indiquaient la difficulté que le détective cambrioleur devait éprouver pour respirer. Schwartzbaum s'arracha un instant à sa contemplation. Il saisit un léger guéridon, l'approcha du hublot et y posa sa montre. Puis, tirant un calepin de la poche de sa robe de chambre, il se mit en devoir d'y inscrire ses observations. En voici la copie textuelle. 2h39. Le sujet commence à donner des signes d'égarement. Il promène ses mains contre le hublot, mais je puis apercevoir sa figure. Ses mâchoires remuent. Il grince des dents. Ses yeux s'arrondissent. Vraisemblablement, le cerveau fonctionne mal. Les nerfs moteurs n'obéissent plus. 2h40. Le sujet ouvre la bouche. Ses lèvres bougent, il doit parler, prononcer des paroles incohérentes. Autant que je puis en juger, le sujet sue abondamment. Les troubles nerveux s'accentuent. Le sujet est pris d'un tremblement convulsif. 2h41. Impossible de rien voir. Le sujet a placé ses mains contre le verre du hublot qu'il cherche à égratigner. Les ongles sont noirs, la pulpe des doigts s'amollit. 2h41, 30 secondes. Le sujet vient de tomber. Foudroyé. Il ne bouge plus, étendu sur le dos. Les doigts sont recroquevillés, les pieds allongés, la face contractée. L'homme est mort. Un peu plus de 4 minutes se sont écoulées depuis la détonation. Mes calculs étaient donc justes. En forçant un peu la dose, on pourra certainement diminuer ce temps de moitié. Schwartzbaum s'arrêta d'écrire. Il remit le carnet dans sa poche et sa montre aussi. C'était un homme soigneux. Et la face souriante attendit l'œil au hublot. John Strobbins devait vraiment être mort, pas de doute. Le savant allemand alla prendre des masques respiratoires dont il s'était servi la veille lors de la mort du chien, et l'ayant fixé sur son visage, il ouvrit la porte du cabinet de photographie et entra. « Mort » murmura-t-il, en se penchant sur le corps du détective cambrioleur. « Je ne m'étais pas trompé. » Affirmation téméraire aussitôt démentie. La main droite de John Strobbins le saisit à la gorge. L'autre main lui appuya le canon d'un revolver sur la tempe. Empêtré dans son masque respiratoire, Schwartzbaum trébucha et, sans savoir comment, se trouva couché sur le dos avec sur la poitrine le genou de celui qu'il croyait mort. « Quand je vous le disais, maître Schwartzbaum, que le royaume des cieux vous était destiné, » ricana John Strobbins. Il lâcha le cou de l'Allemand qui râlait et lui arracha son masque de caoutchouc.
« Rassurez-vous, cher professeur, on respire très bien ici, malgré vos projectiles. »
fit le détective cambrioleur, ironique. « Et maintenant, expliquons-nous. »«
Ne me tuez pas. Ne me tuez pas !»
râla Schwartzbaum. « Je vous donnerai ce que vous voudrez. »«
Merci. Je suis assez grand pour me servir moi-même. Quant à vous tuer, n'ayez crainte, je ne suis pas un assassin comme vous. »
Schwartzbaum, qui était livide, devint vert.
« Vous me comprenez, je crois ?»
railla John Strobbins.
« Je ne voulais pas vous tuer, »
balbutia l'Allemand. « Non, vous voulez m'inviter à déjeuner, n'est-ce pas ?
Votre toupet est colossal, cher professeur,
mais je vous pardonne.
Et quand je vous traite d'assassin,
ce n'est pas pour moi que je parle, attendu que vous n'avez jamais menacé ma vie.
Étant donné que les cartouches qui sont dans votre revolver sont vides,
les bonnes, celles qui contiennent les fameux projectiles asphyxiants,
j'en suis emparé hier.
J'en ai mis trois en lieu sûr. Quant aux deux autres, elles sont dans le revolver que voilà. Et il ne tient qu'à vous d'en essayer l'efficacité.
Pitié,
souffla le professeur Schwartzbaum, anéanti. Oh, j'ai pitié. J'ai même beaucoup de pitié. Je vous fais grâce, je vous pardonne, et je ne vous demande rien.
Les 8 saphirs noirs me suffisent.
Seulement, vous allez me promettre d'envoyer dès l'aurore une lettre aux journaux,
déclarant que vous n'avez rien inventé du tout et que votre précédente lettre est un faux.
Me le promettez-vous ?
Oui. Donnez-moi votre parole d'honneur. Je vous la donne.
Merci, je la prends pour ce qu'elle vaut.
Vous allez me promettre également de ne dire à personne que c'est moi qui possède maintenant les 8 saphirs de Lord John Leslie de Cargavan. Je le promets.
Très bien. De plus, et cela est inutile de me le promettre, car j'y veillerai moi-même. Vous devrez quitter Chicago et les États-Unis dans les 8 jours.
Je ne veux pas que des gens comme vous résident plus longtemps dans ma patrie. Je m'en irai.
Tout va donc bien. Je vais vous quitter.
Donnez-moi votre parole que si je vous lâche, vous ne lancerez pas vos domestiques contre moi ni personne et que vous me laisserez sortir librement.
Je vous donne ma parole d'honneur.
All right. Adieu donc, mon cher professeur, et croyez-moi, jouissez en paix de vos millions
et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas.
John Strobbins, sur ces mots, lâcha l'Allemand, se dressa, sortit du cabinet de photographie et, appalant, se dirigea vers la porte de la bibliothèque distante d'une douzaine de mètres. Il n'avait pas parcouru le tiers de cette distance qu'une sonnerie électrique tinta. Par la porte subitement ouverte, les 4 valets poméraniens, appelés par Schwartzbaum qui, sitôt libre, avait pressé le bouton de la sonnerie, s'élancèrent vers John Strobbins. Instantanément arrêté, le détective cambrioleur se ramassa sur lui-même et gronda
« Tant pis pour toi, idiot d'Allemand, tu l'auras voulu !»«
Emparez-vous de lui ! Tuez-le ! Tuez-le !»
hurla Schwartzbaum, hagard. Et joignant la parole au geste, il fit feu de son revolver qu'il avait ramassé sans se souvenir qu'il était chargé à blanc.
John Strobbins éclata de rire. En 2 bonds, il atteignit la paroi de cristal de la bibliothèque. Il s'arrêta, et tirant de ses poches de revolver, il les braqua sur les valets qui se ruaient sur lui. Ceux-ci s'arrêtèrent, intimidés.
« Mais allez donc, lâche voyou !»
hurla Schwartzbaum, la bave aux lèvres.
« Pas un pas où je vous tue tous les 4 !»
déclara John Strobbins. Et remettant un des 2 revolvers dans sa poche, il ouvrit de sa main libre la fenêtre qui s'ouvrait derrière lui. Avant que les valets, terrifiés, aient pu intervenir, il fut au dehors.
Au dehors, oui, mais sur une étroite terrasse, dominant à pic la berge du lac Guerrier,
et délimitée sur ses 3 autres côtés par des murs lisses et hauts de 3 mètres. Sans aucune saillie, et n'ayant d'autre ouverture que la porte-fenêtre par laquelle il venait de passer.
Le professeur Schwartzbaum, un peu calmé, glapit.
« Fermez la fenêtre, imbécile! Il ne s'en ira pas, maintenant !»
Un valet obéit.
« Vous allez passer par la verrerie de l'ascenseur, » ordonna l'Allemand, « afin de gagner le toit.
Une fois là, vous canarderez ce cambrioleur sans merci.
Allez, vite! Prenez des revolvers et finissons-en !»
Schwartzbaum achevait à peine de parler qu'un cri aigu retentit. Il se précipita vers la fenêtre en criant au domestique
« Arrêtez! Attendez! Le bandit s'est suicidé !»
Il eut une courte hésitation et ouvrit la fenêtre. John Strobbins, calme et souriant, se promenait tranquillement sur la terrasse en fumant une mince cigarette de tabac blond.
« Ah, gueux, voleur !»
cria Schwartzbaum, dépité. Et il referma brusquement l'épais panneau de cristal.
« Courez, vous autres »
grogna-t-il en se tournant vers les 4 valets qui attendaient.
« Êtes-vous plus sourds que des pots ? Prenez des revolvers et fusillez-moi ce cambrioleur ! Il est sans marque pour vous ! Sans compter ce que la police vous donnera ! C'est John Strobbins, le fameux voleur !»
l'un derrière l'autre, les domestiques marchèrent vers la porte. Pris d'une idée subite, le savant allemand se précipita à leur poursuite.
« Tirez-le lorsqu'il sera dans un coin de la terrasse, et ne le manquez pas. Il faut le foudroyer du premier coup, de façon qu'il ne puisse se jeter dans l'érier. C'est compris ?»«
Oui, monsieur le professeur, » firent quatre voix. Schwarzbaum soupira.
« C'est que ce voyou serait bien capable, pour me jouer un dernier tour, de se précipiter dans le lac, avec mes saphirs noirs. »
Sur ce dernier point, le professeur devait vite être rassuré, car à travers la vitre de cristal, il vit John Strobin s'approcher de la fenêtre, tirer de sa poche un carnet, en arracher une feuille et la coller contre le carreau après avoir écrit ces mots.
« Ouvrez-moi, il faut que je sorte. Sinon, un de mes amis, qui m'attend, va porter au prosecuting attorné une lettre de moi où il est question de Sir Leslie Carbagan et de son indigestion mortelle. »
Schwarzbaum lut ces mots et devint plus pâle qu'un cadavre.
« J'ouvre, j'ouvre !»
murmura-t-il sans penser que John Strobins, dont il apercevait le visage calme et narquois de l'autre côté de la vitre, ne pouvait l'entendre.
« Attendez un peu !»
L'Allemand bondit vers la porte de la bibliothèque et de là, jusqu'à la cage de l'ascenseur. Les valets s'y trouvaient et préparaient des échelles pour gagner la verrière s'ouvrant sur le toit. Ils crurent leur maître devenu fou lorsque celui-ci leur cria.
« N'allez pas sur le toit. Tenez-vous derrière la porte de la bibliothèque. Je vais ouvrir, John Strobins. Je l'attirerai près de la porte. Lorsque je tousserai, vous ferez feu. »
Sans attendre de réponse, Schwarzbaum rentra dans la bibliothèque et alla ouvrir la fenêtre. John Strobins, narquois, mais un peu méprisant, franchit le seuil.
« Je commence à me refroidir, »
dit-il en jetant le bout de sa cigarette sur la terrasse.
« La brise du lac est fraîche, la nuit. »
L'Allemand ne releva pas la raillerie. Il ferma la fenêtre et répondit.
« Qu'avez-vous voulu dire, monsieur ? Je veux bien avoir pitié de vous et...
« Trop aimable, monsieur le professeur. Je ne vous demande que de m'écouter 5 minutes.
Après, vous me ferez, si cela vous chante, fusiller par vos valets, que vous avez été avertir. Ce que j'ai à vous dire est bref. Primo, les saphirs noirs sont en lieu sûr. Ils...
« Vous les avez jetés dans le lac, » interrompit Schwarzbaum, éperdu.
« Pas si bête. L'érier a ici 150 mètres de profondeur. Il m'eût été impossible de les retrouver. Je ne travaille pas pour la gloire, moi, ni pour le roi de Prusse. Ce n'est pas comme vous.
Enfin, je les ai remis à un ami. »
« Un ami ?»« Oui, un ami qui, maintenant, doit m'attendre dans un café de Chicago. »«
Parfaitement. » Je continue. « Secondo, je vais vous raconter une petite histoire. » Figurez-vous que Marco Polo, dans ses mémoires...
« Marco Polo. »« Marco Polo, oui, le voyageur vénitien. »
Cet illustre explorateur, donc, parle dans ses mémoires des saphirs noirs, lesquels appartenaient alors à l'émir Kassankar Bali. Or, je l'ai lu dans votre livre sur les civilisations aryennes, Kassankar Bali triompha toujours de ses adversaires grâce à un explosif de son invention et dont la formule était perdue, je dis « était », explosif qui foudroyait ses adversaires sans les blesser. Or, cette formule admirable, vous l'avez retrouvée, je vous en félicite. Effet étrange, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé cette formule quelques jours après avoir acheté les saphirs noirs de Lord Leslie Carbagan, saphir ayant appartenu à Kassankar Bali. Bizarre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Comme j'ai des loisirs, j'ai fait une petite enquête et qui m'a coûté fort cher, mais n'importe. J'ai appris qu'à maintes reprises, vous avez tenté de vous faire confier, par Lord Leslie, les fatales saphirs dont cet Anglais ne se séparait jamais. Devant ce refus, vous lui en avez offert fort cher. Son valet de chambre qui habite New York peut en témoigner.
« Ne pâlissez pas, cher professeur. La pâleur de votre visage annonce un ralentissement de la circulation sanguine. Très mauvais, cela. »
« J'ai fini, d'ailleurs. » Grâce à une indigestion de homard, indigestion propice, hein ?«
Du calme, Herr Schwarzbaum. Peut-être que ce homard avait des goûts dépravés et qu'il aimait l'aconitine. On ne sait pas, mais on peut savoir, pas vrai?
Enfin, cela ne me regarde pas. »
Lors Leslie Carbagan mort, vous avez acheté les saphirs. Ces saphirs portent sur leur culot de petites zébrures, qui sont tout simplement de l'écriture kurde, écriture que vous connaissez en votre qualité de professeur de langues orientales. Vous m'avez compris, je suppose. Vous avez réussi à vous en emparer, d'abord, pour avoir la formule exacte de la poudre asphyxiante, formule qui est gravée,
et pour être sûr ensuite que personne autre que vous ne pourra la connaître et vous en contester la paternité.
Quelle gloire, hein ?
Oh oh !
Étiez-vous assez drôle hier, lorsque je vous annonçais sans rire que votre empereur vous en oublierait presque sûrement ?
Allons, remettez-vous. Vous êtes flasque comme un ballon crevé. Vous avez empoisonné Lord Carbagan pour avoir ses saphirs.
Mais je ne suis pas policier, je ne vous dénoncerai pas. Les saphirs, je les garde.
D'abord parce qu'ils me plaisent.
Ensuite, pour vous empêcher de vous attribuer le mérite de cette exécrable formule, car je vous défends de parler encore de cette invention, vous comprenez? Sinon, j'envoie les saphirs au juge et je demande qu'on autopsie le corps de Lord Carvagan.
John Strobin se tut. Schwartzbaum tremblait comme une feuille au vent. Ses dents claquaient.
Au revoir, cher professeur, conclut le détective cambrioleur en se dirigeant vers la porte. Alors, un espoir fou envahit le cœur de l'Allemand. À coup sûr, John Strobins bluffait. Il devait avoir les saphirs. Ceux-ci disparus, aucune preuve n'existerait plus de son crime, ni du mobile qu'il le lui avait fait commettre. Il toussa. Six détonations retentirent. John Strobins, qui s'était douté du guet-apens, se baissa brusquement et, nullement atteint par les balles, empoigna Schwartzbaum par les épaules et le plaça devant lui comme un bouclier.
Dis à tes coquins de venir ici et de jeter leurs armes devant moi ou je te tue, souffla-t-il à l'Allemand. Schwartzbaum, anéanti, obéit. Les quatre valets, confus, allèrent sur son ordre se placer sur la terrasse où John Strobins les enferma.
Triple brute, expliqua le détective cambrioleur, méprisant. Tu as cru que je me vantais. Tes saphirs, je ne les ai vraiment plus. Je les ai tout bêtement lancés à un ami qui attendait dans un canot sous la terrasse. Ce n'est pas difficile, je te pardonne, tu es trop bête. Au revoir.
John Strobins, brusquement, lâcha l'Allemand qui s'affaissa sur les dalles de marbre. Le détective cambrioleur sortit de la bibliothèque et, en deux bonds, gagna l'ascenseur. Quelques instants après, il était dans la rue. Deux jours plus tard, les journaux de Chicago publièrent la note suivante. Encore une victime des saphirs fatales. On se souvient que, il y a quelques semaines, le professeur Schwartzbaum, le richissime savant allemand, avait acheté les fameux saphirs de Lord Carbagan, dont tous les possesseurs connus ont eu une fin tragique. Les pierres maudites n'ont pas failli à leur réputation. Cette nuit, le professeur Schwartzbaum a été trouvé pendu dans sa bibliothèque. Un écrit laissé par lui indique qu'il s'est suicidé. Pour quelle raison ? Mystère. L'heure avancée à laquelle nous parvient cette nouvelle ne nous a pas permis d'en savoir plus. Toujours est-il que les saphirs ont disparu, affirme-t-on. M. Schwartzbaum a sans doute voulu interrompre la série des malheurs provoqués par eux en les jetant dans le lac Erie. À demain, de nouveaux détails.
De nouveaux détails ? Il n'y en avait pas, sinon que le savant, en disparaissant, avait emporté dans la tombe le secret de son projectile asphyxiant, car nul n'en entendit plus parler. Cependant, John Strobins possédait les 8 saphirs noirs. Quel nouveau malheur allait sortir des fatales gemmes ?
Ainsi s'achève la découverte du docteur Schwartzbaum, une aventure de John Strobins, détective cambrioleur, par José Moselli.